artistes rencontrent Territoire Universitaire. Comme chaque année, a lieu une résidence d'artistes sur l'université Lille 1. Une université donc qui accueille un artiste, en l'occurrence une artiste que nous allons présenter, mais un dispositif qui intéresse tous les lieux, les points universitaires de la région. C'est donc une résidence assez large qui a pour objectif de faire rencontrer donc un artiste et des territoires universitaires. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Ducrot. Bonjour.
Bonjour.
Donc Emmanuel Ducrot, vous avez une mission ici à l'Université Lille 1, mais au-delà, en région Nord-Pas-de-Calais.
Oui, la mission de... alors, de faire partager un processus... Enfin, pour moi, je l'ai lu comme ça, peut-être que c'est un... Moi, je me suis donné comme mission de faire partager un processus de création avec des étudiants qui le souhaitaient dans chaque université, dans les 8 universités dans lesquelles je suis invitée.
Voilà. Quelle est, au départ, la nature de votre art ?
Le sujet de mon travail, ce sont les lieux. Et en règle générale... je rencontre un lieu et je m'en inspire pour faire une création qui, pour moi, est une réponse au lieu, en fait. Et si je peux un peu plus préciser, c'est que je me suis rendu compte qu'au fil de mon travail, je suis assez sensible quand un lieu va pas très bien. Et donc, je cherche un peu à travailler sur ce qui le déséquilibre ou le perturbe, ce que j'appelle un peu sa maladie. Et... voilà, je vais partir de là. Après, là, dans cette résidence Artu, des fois, j'ai un peu pas transformé mon travail, mais je suis partie un peu ailleurs, parce que c'était pas du tout le questionnement.
Au départ, cette sensibilité par rapport au lieu, elle vient d'une formation particulière ?
Je pense qu'elle vient de mon enfance. Moi, j'ai vécu toute mon enfance au Maroc, et on est beaucoup dehors dans ces pays-là. Enfin, à l'époque, il y avait beaucoup de, on va dire, d'espace... Alors, pas vide, mais peu habité. Et donc, voilà, je sais pas, je crois que ma sensibilité à l'espace, au rapport à l'espace, vient de là, en fait.
Alors, c'est vrai qu'un territoire universitaire, pour vous, ça doit être intéressant parce qu'il y a de l'espace. Il y a aussi une vie un peu différente entre le matin tôt, la journée où ça grouille un peu, et la nuit, c'est quasiment à l'abandon.
Alors... ce que vous dites est très beau. Malheureusement, je n'ai pas forcément eu l'occasion et la chance de pouvoir vivre ça.
Petits lapins le matin.
Les lapins, je les ai même vus en dehors du matin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la résidence Artu est faite de telle manière que on pourrait dire que c'est d'ailleurs une réflexion que je me suis faite en arrivant tout à l'heure. C'est que tout va tellement très très vite que je n'ai finalement, il y a quelque chose qui m'a échappé, c'est résider. Je n'ai pas pu résider véritablement quelque part, et donc apprécier. Je pense que là où je me suis vraiment ancrée, où j'ai résidé, c'est j'ai résidé dans la pensée des étudiants, dans leur présence. Mais on va dire que mes territoires ont été les étudiants, mais pas forcément les lieux là cette fois-ci, parce que ça a été très très rapide.
Alors, ce que vous dites, c'est valable, ou ça l'a été pour pratiquement tous les artistes qui sont venus en résidence ici. Je me souviens de Gérald Dumont qui avait réalisé une résidence d'écriture et qui me disait, c'est pas possible, faut quasiment que j'ai écrit le texte avant de l'avoir fait parce que je sais qu'à telle date, faudra que je le rende.
Ça voilà. Devient... Et ça, c'est assez difficile, hein, pour un artiste d'être sous pression comme ça, parce que c'est, des fois, c'est très très bien la pression, mais par moments, c'est, on pourrait pas tenir des années comme, enfin moi je pourrais pas tenir des années comme ça, c'est vraiment parce que c'est limité dans le temps. Mais c'est vrai que du coup je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe beaucoup en fait. Et après c'est bien, hein, des fois de rien maîtriser, mais voilà, on pourrait dire que le temps de l'artiste et le temps de l'université est pas tout à fait le même, ou alors faudrait peut-être modifier des choses, je sais pas, mais voilà. Mais après c'est une alchimie qui va donner des résultats peut-être très intéressants. Mais je le saurai après.
Donc ce territoire de l'Université Sciences et Technologies, Lille 1, à Villeneuve-d'Ascq, cité scientifique, vous avez eu l'occasion de le découvrir et de le mettre en perspective avec d'autres points de ce territoire, d'autres points universitaires. c'est ça?
Vous voulez dire que j'ai comparé, que j'ai fait... Non, j'ai pas pu...
Pas encore?
Non.
On peut imaginer un jour que vous fassiez des rapprochements entre ces territoires dans le cadre d'une autre résidence?
Si par exemple j'analyse un peu toutes les si, le point commun qui ressort de toutes les rencontres avec les étudiants, hein, parce que qui me parlent eux de leur campus ou de leurs universités ou de leurs facultés, manifestement il y a un manque crucial d'espace de convivialité pour les étudiants qui ont du mal en fait, qui passent beaucoup d'heures dans leur université et qui n'ont pas du tout d'espace véritablement conviviaux où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent se rencontrer, où... Voilà, c'est des couloirs, c'est pas forcément des... Voilà, ils souffrent de ça, j'ai l'impression. Mmh. Mais ça, c'est récurrent, je l'ai entendu partout. Mmh. Donc voilà, ça, c'est un point commun. Après, le point commun, alors évidemment, c'est par rapport à la rencontre, c'est que bah, y a une richesse humaine très, très forte dans ces espaces-là. Et heureusement que je rencontre des étudiants, parce que si je pense j'avais été simplement extérieure, en fait, si je m'étais finalement focalisée que sur les lieux, et je n'aurais pas eu, mais je forcément eu accès à cette richesse humaine. Hein. Voilà. Finalement, d'avoir eu comme cahier des charges de rencontrer les étudiants, ça m'a fait découvrir que bah, il y a un vivier de pensées et enfin de rencontres possibles. Ça, c'est passionnant. Voilà.
Donc vous avez rencontré notamment Julia Frottet qui est avec nous. Bonjour
voilà.
Julia.
Bonjour.
Donc Julia, vous avez, dans le cadre de vos études ici, hein, depuis un moment, puisque vous êtes en M2, Master Aménagement et Urbanisme, déjà une sensibilité aussi au territoire, peut-être que ça entre aussi dans l'intérêt de votre rencontre, à voir, hein, à vous de nous le dire. Vous avez pu participer là à des actions peut-être, à des communication avec l'artiste, comment ça s'est passé exactement?
On a d'abord été sollicité par les membres de l'équipe de l'espace culture, parce que on a une sensibilité au territoire, et Emmanuel aussi, et donc il y a une rencontre. Et quelque chose s'est produit, effectivement, nous, la spécificité du campus, c'était ces chemins informels, et on a tout de suite parlé à Emmanuel, on est parti sur les lignes de désir. Et c'est un thème qui a évoqué quelque chose dans son imaginaire, dans sa sensibilité.
Ligne de désir, si j'ai bien compris, c'est ce qui ressort du potentiel de ce territoire en termes d'action.
Tout à fait. En fait, ce sont un peu les chemins informels que tracent les étudiants dans l'herbe et qui montrent un peu l'absurdité des aménagements, puisque ces chemins informels dans l'herbe sont plus courts souvent, plus logiques aussi. Et donc, on a tout de suite parlé, Emmanuel.
Donc ça, ligne de désir, c'est une expression spécifique du vocabulaire des urbanistes.
C'est un concept de l'urbanisme, c'est ça, c'est Sonia Lavadigno. Et donc, on a réutilisé, et en plus, il y a une poétique aussi du concept, qui reprend ligne, qui associe ligne et désir. Donc, la ligne qui donne un peu la matérialité au désir, le désir qui lui donne son épaisseur.
Oui, puis il y a aussi le citoyen qui revendique le droit de pouvoir passer où il le veut malgré les espaces balisés.
Tout à fait, c'est ça, en dehors des sentiers battus, tout à fait.
Donc voilà cette idée de ligne du désir à mettre en avant. Emmanuel Ducrot, comment vous l'êtes approprié?
Vraiment, je suis très sensible aux mots. Donc ligne de désir, j'ai sauté dessus à corps perdu, qu'on pourrait dire, parce que j'ai trouvé ça très très beau comme expression. Et alors, là où j'en suis, c'est que ces lignes de désir m'échappent aujourd'hui totalement. C'est-à-dire que, paradoxalement, j'ai eu tellement peu de temps pour travailler dessus que chaque jour, je me dis « ce projet m'échappe, ce projet m'échappe ». Mais si je reviens à... vraiment est-ce qu'il pourrait advenir encore par la suite, c'est-à-dire que là on va arrêter donc ce week-end là prochain, on va mettre en place une forme à notre pensée au tenté, c'est-à-dire là où on en est de notre réflexion. Déjà une ligne de désir concrète là qu'on trouve dans le campus, moi je trouve ça très beau. Alors je pense que c'est parce que c'est de la... Tout d'un coup, ça devient de la terre battue. Alors ça, je pense que ça renvoie à mon enfance où vraiment la terre battue est très, très présente. Et des fois, je trouve que dans les aménagements, on devrait assumer que oui, les gens marchent peut-être sur la terre, salissent leurs chaussures, mais on est en rapport avec la terre et ça peut que nous faire du bien par moment. Et c'est très organique, ces chemins-là, parce que bon, en fonction de la pluie qui est tombée, il y a eu des bosses un peu, qui ce sont des creux, des bosses. C'est de la sculpture, en fait, mais de la sculpture pas pensée, c'est de la sculpture spontanée. Donc déjà, je trouve ça très très beau, je trouve ça très poétique et organique. Alors paradoxalement, dans la forme qu'on va donner, l'idée c'est que on va investir le patio.
Le patio de l'espace culture.
De l'espace culture. Moi, j'ai été très sensible à cet espace. Je suis particulièrement sensible à cette architecture là, de cet espace culture. Et ce patio, j'ai l'impression que c'est une arène. Où il va se passer quelque chose. Et du coup, je me suis dit, on va investir cet espace, et finalement, tout autour de cet espace, de ce patio, en fait, le chemin pour... on va dire que l'architecte a pensé un petit chemin tout autour, mais il n'y a pas eu de chemin qui ont été pensés au milieu. Donc en fait, là, je me suis dit, dans cet espace, on va être des urbanistes, on va faire nos lignes de désir, avec, vous savez, le traçage pour faire les terrains de foot. Et là où je pense que le projet devient organique un petit peu, où je retrouve cette histoire de l'organisme, enfin de le côté organique, la matière organique, c'est que ces lignes, quand elles vont sortir de ce patio, vont re-rentrer dans l'espace culture, dans les espaces intérieurs, et là vont se transformer en mots. Ces lignes vont être des mots. Et ce sont des écrits qu'ont fait les étudiants, et un enseignant en mathématiques aussi. Voilà, je leur ai demandé d'écrire... des textes totalement librement sur qu'est-ce que, pour vous, évoque la ligne de désir. Et donc, ces lignes très formelles, faites avec cette matière-là de terrain de foot, vont se transformer en mots. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une forme très, très simple. On en est là. Alors là où, si j'avais eu plus de temps, on aurait pu encore prendre plus de temps pour comment écrire les mots, de quelle matière. Enfin, donc, c'est vrai que là, j'ai arrêté quelque chose assez rapidement. Mais pour moi, les mots, c'est du corps aussi. Donc, c'est dans ce sens-là où je retrouve la sensibilité organique de cette vraie ligne de désir sur le terrain.
Donc, Julia Frotté fait partie des étudiants que vous avez intégrés au projet. Il y en a d'autres.
Alors, je pourrais dire que j'ai un socle sur lequel je m'appuie depuis le début. C'est donc Julia Frotté et Kevin Drouot. Mm-hmm. Donc là, ils sont tous les deux très, très présents, totalement présents. Est venu un peu en intermittence Clotilde Sautier. Qui elle aussi est une étudiante en aménagement et urbanisme. Et puis j'ai rencontré Valerio Vassello, qui est un professeur de mathématiques. On s'est rencontrés pour éventuellement que je sensibilise ses étudiants et qu'ils viennent travailler avec moi. Et puis en fait, finalement, ça s'est pas fait, si ce n'est que moi, je lui ai demandé « Est-ce que tu ne veux pas écrire un texte sur les lignes de désir ?» Et donc il va aussi faire partie de l'exposition.
Donc Julien Frotté, ces lignes de désir qui traversent le campus, est-ce qu'il y aurait utilité à les matérialiser, c'est-à-dire à les transformer en vrais sentiers pour le coup balisés, ou est-ce que les garder à l'état de terre battue, écrasée, foulée, ça fait partie de cette poésie qui est attachée à une forme de liberté, de rêve encore possible sur un territoire universitaire?
Alors là, j'aurais deux réponses. Il y a la réponse de l'urbaniste. L'urbaniste voit ça comme presque comme une agression, en fait, envers les étudiants, parce qu'on ne prend pas en compte la réalité des cheminements. Et on garde un tracé rigide et on ne prend pas en compte le chemin le plus court ou le plus intelligent. Ça, c'est la réponse de l'urbaniste. Et après, la réponse plus poétique, oui, c'est sûr que ces tracés qui sont modelés par la pluie, où le ciel peut se refléter, il y a une certaine poésie. On aimerait les garder. Bon. Quelle réponse pèse le plus?
Alors, un troisième point de vue, c'est est-ce que la transgression intervient dans le plaisir de la ligne de désir?
Oui, certainement. Après, toute la question pour nous, ça a été est-ce qu'on leur donne une matérialité? Est-ce qu'on, par exemple, on va aller sur le campus? Est-ce qu'on va aller baliser? Est-ce qu'on va aller signaler? Ça a été une première partie de la réflexion. Et après... est venue la phase de transgression, justement, on va aller à l'intérieur du patio, et les chemins qui font tout le pourtour, on va les casser, et on va passer à l'intérieur.
Réponse aussi de l'artiste.
Alors moi c'est rigolo parce que quand je disais que ce projet m'échappe parce que tout va très très vite, et quand... mais en même temps c'est intéressant hein, de cette expérience-là. Mais il y a quelques jours, je me suis réveillée à 4h du matin, pour vous dire comment un artiste des fois fonctionne, je me suis réveillée à 4h du matin en me disant, il y a un truc que j'ai complètement occulté, c'est la transgression. Bon, et alors ça m'a fait rire parce que je me suis dit, oula, si je suis réveillée par ça, c'est qu'il y a, c'est, il y a quand même, c'est, il faut l'écouter.
Urgence.
Il y a urgence. Je ne peux pas changer le projet en état et je pense que peut-être la transgression qui commence en fait dans ce projet, c'est que voilà, on écrit quelque chose de très très dessiné dans le patio et puis après ça part en mots et puis ça s'infiltre à l'intérieur et on aurait pu dire que même après ça ressort encore de l'espace culture et ça va s'écrire dans la rue et voilà, on aurait peut-être transgressé des choses. Je pourrais dire que vraiment, dans cette ligne de désir, pour moi, il y a deux choses à retenir. C'est son aspect organique et la transgression. Et paradoxalement, c'est quelque chose qui m'échappe encore. Voilà. Alors, mais peut-être que quand on va installer, parce que moi, je fais confiance aussi au fait que des fois, j'arrête une forme, parce que voilà, il faut arrêter. Jusqu'au dernier moment, je suis pas sûre, et puis bon, je la fais, et des fois, au moment de la faire, on a des réponses. Alors peut-être j'aurai une réponse ce week-end, ou pas, et puis je me dis que là, c'est une amorce qui va peut-être nous donner des idées pour la suite. Et puis, voilà.
Donc ces lignes de désir, elles sont tracées au fil des passants, on va dire, hein, des promeneurs, des gens qui circulent en empruntant à la longue ces lignes, ces chemins. Donc on a souvent l'idée d'une répétition de déplacements individuels qui creusent un sillon, qui imprime une marque. Où est la rencontre dans cette notion, parce que j'imagine que parfois les gens se croisent sur ces lignes de désir. Est-ce que là pourraient naître de belles aventures?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pense que les lignes qu'on va tracer, nous, elles suivent le chemin totalement opposé de la manière dont se construisent les lignes de désir à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on va tracer des lignes avec la poudre blanche qui va s'imprimer, l'herbe va repousser, ils vont tondre la pelouse et elles vont disparaître. Donc, c'est vraiment... Là, c'est un processus inverse. C'est ce qui est assez rigolo de jouer avec ça. Oui, nos lignes vont se croiser, ça c'est sûr. Je souhaite que nous ne soyons pas que croisés, mais nous arrivions à tisser quelque chose, bien sûr.
Donc, Julia Frottet, on a dit quelque chose pratiquement à votre nom tout à l'heure, c'est-à-dire que sur l'université de Lille-1, il y avait très peu de lieux où les étudiants pouvaient se rencontrer et passer de bons moments. Est-ce que vous contestez cette affirmation?
Non, je ne la conteste pas. Alors, c'est vrai qu'on a des lieux comme la MDE ou l'espace culture, mais c'est des lieux fermés. Donc, il faut pénétrer à l'intérieur, faire l'effort, ouvrir la porte. C'est pas la même chose que tomber par hasard sur quelqu'un dans un hall d'entrée qui serait un peu convivial ou qui serait assez chaleureux. C'est pas du tout la même démarche.
Donc, l'étudiant dans son cadre universitaire, est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que vous vivez vous-même, Julia Frottet, dans un espace, je veux dire du Crous par exemple?
Non, pas du tout, mais mon collègue oui. Alors ce qu'on ressent nous, c'est qu'on a des portes fermées, des salles fermées, et de plus en plus, en fait, tout est contrôlé. Il faut donner des horaires pour pouvoir occuper la salle. Si on ne l'occupe pas, la porte est fermée. En fait, de plus en plus, on est comme. On n'est pas invité. On est presque étrangers à nos propres bâtiments. En tout cas, on n'est pas les bienvenus, en dehors des heures, en dehors des créneaux. Et ça met souvent mal à l'aise, en fait. Donc, problème d'espace de travail, problème d'espace de rencontre. Voilà, c'est un sujet presque technique.
C'est un vrai sujet, on va dire, de liberté collective et individuelle, finalement.
Oui, parce que du coup, les étudiants ne peuvent pas forcément se rencontrer, discuter, ils ne peuvent pas forcément avoir des idées qui vont germer. Et oui, effectivement, dans le fait d'être, par exemple, politisé ou sensibilisé à faire partie des conseils d'étudiants, faire partie d'un syndicat, enfin, rien que ça, c'est une question annexe, un peu la politisation des étudiants, mais je pense que ça participe aussi à avoir ces espaces de rencontres, de discussions. Bon, ça fait toujours émerger des idées, et là, on l'a pas forcément. Là, on est un peu bridé.
Peut-être une prochaine étude sur cette problématique, c'est-à-dire comment du cloisonnement des bâtiments ou des salles ou des lieux et de l'obligation à emprunter les sentiers autorisés, sinon balisés, comment tout cela appauvrit la richesse de l'imaginaire, voire même de l'esprit d'une manière globale.
Tout à fait. Et ça bride aussi jusqu'à l'esprit critique, je pense, parce qu'on est tellement bridé ou invité à prendre ces couloirs balisés, comme vous dites, qu'on va plus les remettre en cause et qu'on va finir par les accepter. Et là, ça devient inquiétant, je pense.
Alors, ils ont des lignes de désir à créer.
Des revendications aussi.
Oui, ouais. Oui, mais moi je pense que, enfin moi je peux être dans la revendication pour faire bien mon boulot, mais en termes artistiques je suis pas là pour faire des revendications. Je suis là pour peut-être pointer du doigt, mais pas voilà. Et c'est vrai que le thème de la convivialité je l'ai pas abordé moi parce que mais c'est vrai que c'est sorti chez tous les étudiants de toutes les universités que j'ai rencontrées, c'est quand même le point majeur qui est ressorti.
Donc c'est quand même assez important cette idée-là, parce qu'on imagine que le milieu universitaire ou les zones où vivent les étudiants sont des lieux un peu privilégiés, enfin ça l'a été à un moment donné, et là finalement ils tombent dans le domaine courant de ce qui est contraint.
Oui. Après moi, on va peut-être pas rentrer là-dedans parce que c'est très politique, je trouve tout ça aussi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre, on prépare les gens à être des bons employés, obéissants et absolument pas transgressifs. Et c'est troublant en fait parce que sous couvert de sécurité, de tout ça, je suis pas folle. Hein. J'ai pas envie que les gens soient en danger. Mais à un moment donné, moi, j'ai vécu dans des universités où on pouvait avoir accès à des amphithéâtres et bien sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va détruire. Mais bon, la minorité de ces gens-là, elle est très petite. Et du coup, voilà. Moi, quand j'ai fait mes études à Saint-Denis il y a plus de 30 ans. Le week-end, on avait accès à l'amphithéâtre, on pouvait venir répéter, on pouvait venir donc penser, réfléchir, enfin ce qu'on voulait d'ailleurs, et ou ne rien faire. Mais on avait des lieux pour travailler. Et travailler, c'est pas forcément faire, mais voilà. Là, je suis, j'ai confiance aux étudiants, mais ça n'empêche que si on leur c'est métro boulot dodo pour les étudiants, c'est troublant. C'est bizarre.
Et toi, tu as confiance, mais c'est peut-être pas réciproque. Donc, il y a peut-être un manque de confiance, en fait, envers les étudiants, ce qu'ils vont faire avec leur salle, comment ils vont gérer leur temps.
Peut-être avant, il y avait un statut des étudiants plus clair et peut-être aussi un respect de ce statut d'étudiant par les gens qui ne l'étaient pas, notamment des gens qui travaillent autour des étudiants, mais qui n'étudient pas.
Nous, on sent juste un manque de confiance, en fait. Voilà, on ne donne pas forcément les clés pour travailler dans une salle, on doit demander autorisation sur autorisation. Voilà, donc ça devient très formel et très contraignant. Oui.
Voilà, merci Julia Frotté de votre témoignage. Par rapport à vos études en master, là, est-ce que ça va se prolonger après vers un doctorat ou...
Oui, tout à fait. J'ai un projet de thèse qui est en cours. Là, je recherche des financements.
Sur quel thème ?
Alors là, c'est sur les mobilités électriques. On va un peu s'attaquer au sujet de la voiture électrique, critiquer un peu son système et l'orienter peut-être vers un système plus avec de l'intermodalité, avec la prise en compte des mobilités douces. Voilà. Et la voiture électrique arrive, mais que les comportements de mobilité changent avec elle.
Bon, voilà. Un thème porteur en tout cas.
On l'espère.
Ben voilà, on vous souhaite bonne chance et puis revenez nous voir quand vous voulez communiquer autour de votre projet. Hein.
Très bien, avec plaisir. Merci. Voilà.
Emmanuel Ducrot, donc, cette résidence se termine, elle sera présentée et puis elle va être confiée, j'allais dire, aux personnes qui sont ici dans cet espace de l'université, l'espace culture. Ils vont pouvoir apprécier ce bouleversement du lieu, on va dire. C'est un peu ça aussi, l'idée.
Bon, j'ai pas forcément voulu trop bousculer, c'était pas le projet, mais c'est... ce qui est sûr, c'est que autant pour moi, les étudiants sont des partenaires de travail dans cette mission Artu, mais les services culture aussi. Donc la manière dont je suis accueillie, la manière dont les lieux sont à ma disposition, leurs pensées aussi critiques sur mon travail, enfin tout ça, ça participe. Donc après, je sais pas comment ils vont recevoir le projet. Pour l'instant, j'ai carte blanche, je suis très bien accueillie ici à Lille 1. Voilà, c'est eux qui vous diront si je les ai perturbés un petit peu ou pas.
Bon, mais on essaiera de les interroger sur ce sujet.
Voilà, exactement. Mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment véritablement la rencontre avec les étudiants. C'est dans toutes les universités. Ce que je trouve le plus émouvant, en fait, dans ce projet de la mission Artu, c'est cette rencontre-là. Parce que je n'aurais pas du tout fait ces... Évidemment, je n'aurais absolument pas travaillé de la même manière si je les avais pas rencontrés. Et ça m'emmène à des endroits, voilà, qui me sont pas d'emblée accessibles. Donc ça, c'est très enrichissant.
Quand vous aurez terminé cette résidence, vous pensez faire quoi dans votre vie ?
Dans ma vie. Alors déjà, parce que bon, la mission Artu me prend tellement de temps que je n'ai même pas le temps de préparer vraiment mon avenir, là. Parce que moi, mon principe de travail pour l'instant, c'est de répondre à des résidences. Et donc là, j'ai même pas encore répondu à d'autres résidences. Je vais faire quelque chose de nouveau pour moi, c'est que je vais essayer de me trouver un atelier. Parce que moi, comme je travaille in situ, j'ai pas d'atelier. Et juste avant de venir là, sur ce projet de la mission Artu à Lille, je suis allée 3 mois en Suisse et j'ai eu la possibilité d'avoir un atelier. Et je me suis un peu mis en expérience en me disant, mais qu'est-ce que je vaux en atelier? Et du coup, j'ai commencé un travail d'atelier qui n'est plus trop en rapport avec les lieux, même si l'atelier devient un lieu à investir. Et du coup, j'ai vraiment envie de poursuivre cette recherche. Alors, pour la petite info, mon travail que j'ai fait en Suisse est en ce moment visible à Lille 3, dans la Galerie des Trois Lacs, jusque fin avril. Et le finissage de cette exposition est le 27 avril. Mais voilà, donc Lille 3 m'a gentiment proposé d'exposer dans leur galerie. Et voilà, pour ça va être aussi me trouver un territoire à moi, en fait, et peut-être, bien sûr, continuer à travailler sur le territoire où je suis invitée ailleurs, mais peut-être me trouver mon territoire de travail.
Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Emmanuel Ducrot.
Ben, merci.
Et c'est moi qui vous remercie. Très bonne journée.
Merci.
Au revoir. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.
Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours de bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de toutes les bêtes, les oiseaux pour nous y donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courant vite. Ne crains rien, prends ma main dans ce petit